Tamani, voici nos informations en français.
Il est 18h à Kassaro, c'est dans la région de Kita. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition. Voici les titres. Le Mali est de nouveau leader du coton en Afrique, selon le département américain de l'agriculture. Avec une prévision de plus de 800 000 hectares de culture, le pays sera le plus grand producteur du coton sur le continent pour la campagne agricole 2021-2022. Après l'assaut des djihadistes contre le camp de Mondoro, la situation humanitaire est critique. Selon les populations locales, elles demandent l'ouverture d'un couloir humanitaire. La situation sécuritaire s'est aussi dégradée dans certains endroits du pays. Culture, le festival Didadi débute demain jeudi à Bougouni. Les organisateurs annoncent plusieurs innovations pour cette nouvelle édition. Je suis Hamsetou Touré à la présentation. Après une chute de plus de 75%, le Mali redevient premier producteur de coton en Afrique. Selon un rapport du département américain de l'agriculture publié en septembre dernier, ces chiffres ont été également confirmés par la Confédération des cotonculteurs du Mali. Le pays sera le plus grand producteur du coton sur le continent pour la campagne agricole en cours. Il devrait être suivi du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Omar Waigalo.
La Confédération des cotonculteurs du Mali explique cette remontée du Mali à la tête des pays producteurs de coton par l'augmentation des superficies cultivables. Cette année, les producteurs maliens prévoient de cultiver plus de 800 000 hectares contre 170 000 lors de la campagne précédente. Les Mali planchirent une production de plus de 800 000 tonnes, affirme Diala Moussa Dembélé, chargé de l'information à la Confédération des cotonculteurs. Les kilogrammes de coton est vendu cette année à 280 francs CFA. En mai 2020, les prix des kilogrammes de coton avaient baissé de 275 francs à 200 francs CFA. Quant à la subvention des engrais faite par les autorités pour soulager les paysans, elle avait été suspendue. Une situation qui avait poussé certains cotonculteurs à boycotter la campagne cotonnière au profit d'autres cultures. Suite à l'embargo de la CEDEAO, les autorités utilisent les ports de Nouakchott pour exporter les cotons maliens.
À Koutia, la région de production de coton par excellence, les cotonculteurs ne sont pas surpris de cette première place du Mali. Ils affirment qu'avec l'augmentation du prix d'achat du coton aux producteurs et la subvention de l'engrais, les producteurs se sont donnés à fond lors de la campagne dernière. Ils annoncent une augmentation de la production de 60% cette année. Écoutons Gaussou Sanogo, chargé de commercialisation à la Fédération des cotonculteurs du secteur de Koutiala. Il est joint par Omar Waigalo.
L'année dernière, les producteurs ont boycotté la culture du coton. Ça permet au gouvernement de prendre d'autres dispositions. D'abord, ils ont eu à augmenter le prix aux producteurs et les subventions ont continué. C'est ce qui a fait que cette année, les producteurs se sont vraiment donnés à la production cotonnière. Donc, ça ne nous étonne pas aujourd'hui si le Mali se place comme premier producteur de la zone Afrique. Après le comptage capsuleur, nous avons prévu, cette année, la CMET aura à acheter 800 000 tonnes de coton auprès des producteurs de coton. L'année dernière, on était autour de 300 000 tonnes et cette année on est jusqu'à 800 000 tonnes. Donc, ce qui veut dire que la production serait augmentée à peu près de 60%.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Une tension règne depuis quelques jours entre le Mali et la Mauritanie. Hier, Nouakchott a accusé les forces armées maliennes de commettre des crimes récurrents contre des Mauritaniens sur le territoire malien. L'ambassadeur du Mali, Mohamed Dibassi, a été convoqué par le ministère mauritanien des Affaires étrangères sur la question. Retrouvez les détails de ces incidents diplomatiques dans nos prochaines éditions. Insécurité après l'attaque contre le camp de l'armée de Mondoro dans le cercle de Douanzan. Les habitants préviennent contre une catastrophe humanitaire dans la localité. Ces derniers interpellent les autorités de la transition à ouvrir un couloir humanitaire. Toutefois, ils se disent rassurés par la forte présence des forces armées maliennes depuis la dernière attaque. En outre, le Premier ministre a aussi intervenu sur cette attaque. Pour Shogel Kokalamaïga, elle visait à s'appeler le moral des troupes. Imran Akilou Maïga.
La situation humanitaire à Mondoro nous inquiète énormément. Cette déclaration est d'Oumar Ngoïba, un jeune leader de Mondoro. Selon lui, compte tenu de la pénurie de produits de première nécessité, les populations sont exposées à une crise alimentaire. D'où la priorité de l'ouverture d'un couloir humanitaire, explique Oumar Ngoïba.
La population, c'est vrai, les couches vulnérables sont au premier plan, mais les autres également, ils ne sont pas exclus des conséquences de cette famine qui s'annonce dans le village. Parce que depuis 3 ans, je l'ai toujours dit, les gens n'ont pas cultivé.
Le chef du gouvernement a réagi hier à l'attaque de Mondoro pour Choguelko Kalamaïga. Le but de cette attaque terroriste est de démoraliser l'armée malienne. Mais il indique que cela ne marchera pas.
Donner la preuve que sans l'appui des forces étrangères, notamment leur aviation, nous ne parviendrons pas à sécuriser nos populations. L'ennemi, comme les commanditaires de l'ennemi, se sont lourdement trompés. Ils ont ignoré que le temps n'est plus à l'expression repli tactique.
Dans une vidéo, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a présenté un butin de guerre qu'il aurait récupéré lors de l'assaut contre le camp de Mondoro. Il affirme n'avoir perdu que 4 combattants. Cependant, le gouvernement avait annoncé que 27 militaires ont péri et 70 terroristes dans ce combat.
Sur le même sujet, des incidents sécuritaires sont survenus ces derniers jours à travers le pays. Dans le cercle de Yoroso, des hommes armés ont fait irruption dans le village de Tandio et ont enlevé 2 personnes à Diré. C'est le commissariat de police qui a été la cible d'une tentative d'attaque ce mardi soir. Dans la même période, le mouvement pour le salut de l'Azawad a aussi annoncé qu'une de ses positions à Tamalat, dans la région de Menaka, a été attaquée par des terroristes. Draman Meiga.
C'est une source communale qui confirme l'attaque contre le village de Tandio. Selon elle, les assaillants sont arrivés entre 19h et 20h à moto dans le village et ont enlevé 2 personnes. Au nord du pays, des hommes armés non identifiés ont tenté ce mardi d'attaquer le commissariat de la police de Diré dans la région de Tombouctou. Selon les sources locales, les policiers ont repoussé les assaillants. Cependant, ces derniers ont réussi à braquer une boutique et emporter 6 motos, ajoute-t-elle. Toujours au nord du pays, cette fois-ci à Menaka. Dans un communiqué publié hier mardi 8 février, le mouvement pour le salut de l'Azawad MSA annonce que leur position de Tamalat à Menaka a été la cible d'une attaque. Elle aurait été perpétrée par les hommes de l'État islamique au Grand Sahara et IGS. 4 combattants du MSA ont trouvé la mort et 2 blessés. Et 3 morts du côté des hommes armés affiliés à Daesh, indique le communiqué. Au même moment, les leaders du cadre stratégique permanent CSP sont en réunion depuis le dimanche dernier à Talataï, dans le cercle d'Ansongo. Ils disent réfléchir sur la sécurisation et la lutte contre le terrorisme dans la zone des 3 frontières.
Autre sujet, le village de Siekourani dans la commune de Loulouni a vibré le week-end dernier au rythme des festivités du mariage annuel Samogo de la localité. Une cérémonie traditionnelle historique qui regroupe tous les fils et toutes les filles du village ainsi que les ressortissants vivant ailleurs. Cette année, 26 jeunes filles ont été mariées à Siekourani de Kadiolo. Nous retrouvons notre correspondant Mamadou Ousseynou Bari.
Ils ont tous entre 18 à 30 ans. Leur mariage traditionnel et religieux a été célébré ce week-end devant les autorités traditionnelles, parents et amis à Siekourani. Afou Koulibaly, âgée d'environ 18 ans, est heureuse.
Je connais certaines personnes, sauf que j'ignore leur nom. Je me réjouis de cet événement. On est tous contents.
Ce sentiment de joie et de satisfaction est partagé par les parents des nouveaux mariés. En plus de son caractère traditionnel, ces mariages collectifs permettent de réduire les dépenses. Salimata Ouattara, mère des nouveaux mariés.
En réalité, l'intérêt primordial des mariages collectifs est lié à la communauté dans les dépenses de nourriture.
Ce lien traditionnel est aussi un moyen de consolidation du tissu social en milieu Samogo. Une fois mariée dans cette tradition, la femme Samogo n'abandonnera plus ses foyers au risque de se voir bannie de la famille. Une cérémonie spécifique. Djakalia Ouattara, chef de village de Siekourani.
On l'appelle communément Dafoua. C'est un rituel qu'on organise tard dans la nuit à l'abri des regards. Seules les vieilles dames et les chefs de village y sont autorisés et ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit.
Il faut signaler que seules les jeunes filles qui n'ont jamais contracté un mariage sont soumises à cette cérémonie de mariage collectif. Mamoudou Seni Bari, de retour de Siekourani pour Studio Tamani.
Je l'annonçais dans les titres, le festival d'Idadi démarre demain jeudi à Bougouni. Durant une semaine, la ville va vibrer au rythme de la culture. Plusieurs pays voisins, notamment le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo participent à ce festival. Beaucoup d'innovations ont été apportées à cette 9e édition. Selon les organisateurs, Ousmane Koulibaly est le coordinateur général du festival d'Idadi. Il est joint par Fatih Attara.
Parmi les innovations, il y a la balade sur le fleuve Baoulé qui nous permet d'impulser quand même le secteur touristique de la ville pour un développement socio-économique durable de la région de Bougouni. Et également, il y a une formation à l'endroit des jeunes photographes, caméramans, vidéastes de la ville pour la production de films. Également, nous sommes en train d'installer un village du festival pour la première fois. C'est pour un peu pallier à tout ce qui est déficit en termes d'hébergement de la ville de Bougouni. Et en plus d'une discothèque à ciel ouvert qu'on a organisée cette année qui commence à partir de demain. Cette année, nous sommes à 180 stands, donc qui sont occupés depuis bientôt 10 jours.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. Les déplacés de la commune de Boura, Cercle d'Ansongo, ont bénéficié des coupons de vivres alimentaires ce matin à Ansongo. Chaque ménage a reçu une somme de 42 500 francs CFA. Cet argent est échangé contre du riz, de l'huile et du lait. Le geste est du programme alimentaire mondial PAM. Nous recevons à présent Mariam Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mariam Maïga, quel est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui?
Bonsoir Hamsatou Gogo Touré, le thème de notre émission Le Grand Dialogue de ce soir est « Médias au Mali, quelle place pour les femmes ?» Pour en parler, nous avons trois invités, Dado Camara du journal L'Annonceur, Hawama Camara, journaliste à l'ORTM, Bandjougou Danté, président de l'URTEL, également de la Maison de la Presse du Mali.
Merci Mariam. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute dans un instant. La question A. Le Mali compte une cinquantaine de femmes juges, c'est du moins ce qu'indique la juge d'instruction au pôle économique et financier de Bamako. Ces femmes juges reconnaissent qu'elles jouissent des mêmes avantages que leurs collègues hommes sans aucune discrimination. Elles déplorent toutefois des préjugés venant de certains justiciables à leur égard. En marge de la Journée internationale des femmes juges ce 10 mars, Madame Waigalo Maladobo comme juge d'instruction au pôle économique et financier de Bamako, répond aux questions de Moussa Malé Sissoko.
Au Mali, nous avons un total de 533 magistrats, hommes et femmes. Et sur ce total, il se dégage seulement un nombre de 58 pour les femmes. Sur le plan administratif, nous avons remarqué ici qu'il y a des procureurs femmes, il y a des présidents des tribunaux femmes, il y a eu dans le temps des procureurs généraux femmes. Sur les 6 communes de Bamako, nous avons tout simplement 2 femmes présidentes en l'occurrence. Celle de la commune 3 et de la commune 2. Donc il n'y a que 2 femmes présidentes pour tout Bamako. Dans les régions également, il y en a 2, à Ségou et à Koutchala. Seulement, le nombre est insuffisant.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
Il faut reconnaître que c'est très très difficile pour une femme de concilier cette vie privée et la vie professionnelle. Le travail du juge s'étend généralement à la maison plus qu'au bureau. Comme vous le savez, dans le contexte malien, tout le monde veut rencontrer le juge. Le Malien a tellement soif de justice qu'il a envie de venir et d'être en face du juge et d'expliquer réellement son problème. Cela impacte sur le travail, sur le calendrier du travail. Donc on est obligé de ramener ce travail à la maison, tant supposé être pour les enfants ou pour le mari, alors vous travaillez. Vos temps de sommeil sont limités, vos temps de repos sont limités et vos temps pour faire le social sont également limités.
Certains Maliens disent que des dossiers traînent longtemps sur vos bureaux. Que répondez-vous à ceci?
Veulent dire que les dossiers traînent avec les femmes juges ou les hommes? La question est de taille, hein? La précision est de taille. Et c'est vérifiable. Hein? Je n'ai jamais dit que les hommes n'ont pas une grande conscience professionnelle, mais les femmes juges en ont le double. Et c'est vérifié, c'est scientifiquement prouvé, même à l'échelle internationale, que les femmes juges, en tout cas, elles se battent justement pour enlever ces préjugés qui pèsent pèse sur les femmes, à savoir que la femme ne peut pas convenablement occuper un poste de responsabilité. Donc nous avons le défi de relever ce préjugé et donc le travail se fait et parfaitement.
Des jeunes filles qui font droit aujourd'hui, qui aspirent à devenir juges, quels conseils vous leur prodiguez?
Et le plus, c'est de croire en leur potentialité, de croire en leur capacité d'exercer cette noble profession. C'est une profession complexe et compliquée, mais que les femmes peuvent aisément exercer parce que la femme, elle est à cheval entre la vie de foyer et la vie professionnelle, notamment dans la gestion de certains dossiers, c'est-à-dire les dossiers de viol, les dossiers de harcèlement, les dossiers de violence dans les couples. Les femmes sont enclines à comprendre ces phénomènes. Les femmes juges le voient souvent différemment des hommes juges parce que la femme a une perception de ces violences-là souvent que l'homme n'a pas trop.